Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, une large place sera faite à la presse écrite et aussi, on va vous faire découvrir trois groupes ou chanteurs français quasiment inconnus chez nous qui cartonnent à l'étranger, genre numéro 1 aux États-Unis. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences pharaoniques du foot avec Luis Bernard. Je vais voir si je gagne mon pari d'hier. J'avais prédit plus de 10 millions devant M6. Notre infomédia avec la suite du feuilleton concernant les droits voisins. Ce sont les droits d'auteur que les plateformes numériques type Google ou Facebook doivent verser à ceux qui produisent les articles et les vidéos qu'ils utilisent. Autrement dit, les journaux, les radios, les télés, les agences de presse. Les quotidiens ont trouvé un accord en début d'année avec Google, mais pas les magazines. Et bien justement, nous serons avec Alain Auger, c'est le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine qui lance une nouvelle initiative. Et puis nos invités, Frédéric Daruti, directeur de la publication du quotidien gratuit 20 minutes, qui va venir nous présenter la nouvelle formule qu'ils ont lancée le 9 juin, donc la semaine dernière. Le but, je cite, « nous extraire de l'hyper-présent ». C'est quoi l'hyper-présent ? Il nous dira. Enfin, le comédien césarisé Alex Lutz, pour 5e set, signé Quentin Reynaud, avec Christine Scott-Thomas et Anna Girardot, film qui sort aujourd'hui, le premier film français réalisé dans le milieu du tennis, et c'est une réussite. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Luis Bernard.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
LCI réorganise sa grille de programmes pour la rentrée prochaine, la finale du concours de lecture de France 5 et puis le retour annoncé de Samuel Etienne sur Twitch.
Mais d'abord, les audiences avec vous Luis Bernard. Ai-je gagné mon pari ? Plus de 10 millions devant le foot qu'ont regardé les Français hier soir
vous
à part le foot.
Vous êtes fort Philippe Bandel. Voilà, il faudrait vous confier une émission média.
Merci, ne me flattez pas.
Plus de 15 millions de
wow.
Personnes
ça, je m'attendais pas. Je pensais pas que ça passe les 15.
15 millions 100 000 téléspectateurs avec un pic même à 17 millions à la fin du match, 57,5% de part d'audience.
Ouais, ça m'a échappé, je suis désolé.
Je pense qu'il y a eu la même réaction chez M6 ce matin en regardant les audiences. Meilleure audience de l'année, meilleure journée de l'année pour M6 évidemment, puisque quand on fait la moyenne de toute la journée, forcément ça l'emporte. Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre ? Oui, le MAG juste après, comme Marie Portolano était notre invitée hier, juste un petit chiffre comme ça, le MAG 100% euros l'après-match, 1 920 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience. Pour les autres chaînes, évidemment, c'est plus compliqué. France 3 s'en sort pas si mal que ça, finalement, avec un honorable 2 650 000 téléspectateurs devant une rediffusion d'un téléfilm, Le Mort de la Plage, 10% de part d'audience. Derrière, TF1 souffre avec le film Momo, 1 570 000 téléspectateurs, 5,9% de part d'audience seulement. TF1 qui avait d'ailleurs déprogrammer la suite de sa série Dirty John qui devait être diffusée hier soir parce que les audiences étaient déjà très faibles. Bon, évidemment, face au foot, c'est toujours très compliqué. Et puis le film LOL sur France 2, pareil, 1 210 000 téléspectateurs, 4,6% de part d'audience seulement.
Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Genton, avec à la une du mouvement au sein de deux chaînes info.
Des départs et des arrivées pour LCI et BFM TV. Départ de Pascale de la Tour du Pin d'abord. La journaliste quitte LCI. Elle y présentait la matinale depuis 4 ans sans que les audiences aient décollé. La chaîne lui a proposé alors une autre tranche, ce qu'elle a refusé. Elle va rejoindre son ancienne maison BFM TV qu'elle avait quittée en 2017. Elle y animera une tranche info en journée, d'après Le Parisien.
Et vous savez quoi ? Je découvre l'info en la lisant pour la remplacer. LCI mise sur un duo.
Un duo inédit, Stéphane Etcheverry qui fait le chemin inverse, hein. Il vient de BFM TV, et puis Hélène Manarino qu'on connaît bien ici. Ils prendront les commandes de la matinale à la rentrée. Autre changement sur LCI, selon Le Parisien, Christophe Beaugrand reprendrait la tranche 9h midi, Ruth Elkrief celle de 20h à 22h, à la place en partie de Darius Rochebain. Le journaliste suisse, lui, officierait le week-end désormais. Enfin, Éric Brunet à l'antenne en fin de matinée cette saison, lui, assurerait le 22h minuit.
Sur cette musique de Camille Saint-Saëns, j'annonce qu'on connaît la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes.
Et oui, ce sera Dora Tillier. L'actrice sera donc chargée d'animer les cérémonies d'ouverture et de clôture diffusées sur Canal+. Elle succède à Édouard Baird, qui avait tenu ce rôle, et plutôt bien, hein, 2 années de suite, en 2018 et 2019. L'an dernier, le festival avait été annulé en raison de la pandémie. Cette année, il aura bien lieu, mais le mois prochain, un peu plus tard que d'habitude, encore à cause de la crise sanitaire, la cérémonie d'ouverture est prévue dans 3 semaines, le 6 juillet.
Et puis le focus programme du jour, c'est une émission de France France 5 et si on lisait à voix haute.
Ouais, c'est un concours de lecture à voix haute donc pour des collégiens et des lycéens. Un concours animé par François Bunel comme pour la première édition l'an dernier. La finale a lieu demain soir avec 10 candidats. Il y en avait 130 000 au départ. 10 jeunes qui vont s'affronter en lisant un texte de leur choix devant un jury composé de 4 écrivains. Éric-Emmanuel Schmitt, Clara Dupont-Monod, Gaël Faye et Cécile Coulon. Des jeunes qui se sont préparés à cette finale avec des coachs par visioconférence. Parmi eux, un acteur, l'excellent Guillaume de Tonquédec, qui leur a donné quelques conseils.
Ce qu'il y a de magique, c'est que à chaque élève, les conseils sont différents selon ce qu'il propose. Et j'ai vu vraiment des lecteurs de très très bon niveau. C'est très émouvant. C'est très émouvant parce qu'ils se lancent, ils ont le trac. Alors je leur dis surtout, n'essaye pas de lutter avec ton trac. Tu l'auras le jour du passage. Il faut faire avec, réussir à ce que, au bout du compte, le trac se transforme en plaisir. Voilà. Et surtout se dire, je leur dis, mais qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? À part de te faire plaisir, de faire découvrir un très beau texte à ceux qui t'écoutent. Voilà. Donc tu ne risques pas grand-chose, en fait. Donc prends du plaisir et sache bien pourquoi tu es là, quel message tu veux délivrer à travers ce texte que tu as choisi.
Voilà, Guillaume de Tonquédec, lui aussi délivrera un message, lui aussi fera découvrir un texte demain, texte qu'il souhaite garder secret jusqu'à l'émission, une émission à laquelle il avait déjà participé l'an dernier, car il a un rapport intime et particulier à la lecture, un rapport qui n'a pas toujours été simple.
L'apprentissage de la lecture a été très 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 compliqué pour moi. J'étais aussi très mauvais en orthographe et en grammaire, j'étais complètement bloqué. Et c'est grâce à cette prof de français que j'ai rencontrée au collège, qui a fait venir une prof de théâtre, et c'est le théâtre qui m'a sauvé en fait, c'est l'univers des auteurs qui m'a sauvé. Et du coup, j'ai réappris l'orthographe et la grammaire en classe de 3e, c'est-à-dire très tardivement. Et donc, je me suis dit, si je peux aider, si je peux transmettre à mon tour, il faut que je le fasse, quoi. Mon témoignage, c'était de dire, vous voyez, un élève qui n'a pas été un très bon élève, qui a eu des difficultés, et ben, il peut, grâce aux auteurs, devenir un acteur de théâtre, de cinéma ou de télévision. Il peut réussir sa vie d'artiste, alors que c'était vraiment très mal parti au départ. Donc, de donner de l'espoir, quoi, à ceux qui nous écoutent et qui vivent les mêmes situations.
Guillaume de Tonquédec, que vous pourrez donc voir et entendre demain. Et si on lisait à voix haute, la finale, c'est ce jeudi à 20h50 sur France 5, animé par François Bunel.
Deux infos en bref pour terminer ce journal.
La première, c'est le retour annoncé de Samuel Etienne sur Twitch. Le journaliste va reprendre sa revue de presse intitulée La matinée Etienne, arrêtée il y a 2 mois. Il le fera dès cet été, peut-être pas à un rythme quotidien, c'est ce qu'il dit ce matin aux Parisiens. Et puis la mise en ligne des podcasts payants d'Apple, c'était hier, parmi eux On de la Traconte, le premier podcast de récits de France, un podcast Europe 1 Studio. Pour 2,49€ par mois, vous pourrez avoir accès à des contenus exclusifs, des séries thématiques inédites, des récits bonus, des archives, et chaque épisode la veille de sa diffusion à la radio.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et des audiences normales. Dans un instant, notre info média du jour focus sur les droits voisins. Ce sont ces droits d'auteur que les plateformes numériques doivent verser aux producteurs des articles et vidéos qu'elles utilisent. Nous en parlons avec Alain Auger, il est le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans l'actualité des médias, il y a un autre feuilleton que celui des droits du football, celui des droits voisins. Les droits voisins sont ces droits d'auteur que les plateformes numériques type Google ou Facebook doivent verser à ceux qui produisent les articles et les vidéos utilisés. Autrement dit, les sites d'information eux-mêmes produits par des journaux, des magazines, des agences de presse par exemple. C'est obligatoire depuis 2019. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple et la presse avance divisée. Les quotidiens ont trouvé un accord en début d'année avec Google, mais pas les magazines dont les dirigeants viennent de réagir. Bonjour Alain Auger.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine, le SEPM, et vous êtes également l'un des directeurs généraux de Bayer Press. Je parlais de réaction, on va y venir. Avant cela, pour comprendre la situation, où en êtes-vous dans vos discussions avec les plateformes, avec Google en particulier?
Écoutez, nous cherchons activement un accord. Il est hors de question de ne pas se mettre dans une logique de coopération et de travail ensemble à long terme. Donc il faut trouver un accord. C'est la voie de l'avenir. On sait que par le passé, avec YouTube, on a eu du mal à trouver un accord. On a fini par en trouver un. On voit que la musique, aujourd'hui, ne saurait pas vivre sans un accord de rémunération de la diffusion digitale. La presse, qui a longtemps été protégée par son modèle papier, en est aujourd'hui, avec quelques années de retard, au même cycle. Elle doit absolument trouver un revenu à sa diffusion digitale croissante.
Pour situer Google, le moteur de recherche représentait 92% du marché de la recherche sur Internet l'an dernier et son service Google News est l'un des plus puissants agrégateurs des liens des articles de presse. Et justement, je voulais faire écouter des propos du directeur général de Google France, Sébastien Missoff. Il était l'invité à ce micro de Culture Média il y a un mois et voici ce qu'il disait des négociations au sujet des droits voisins.
C'est un sujet compliqué en effet et il y a sûrement un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire mieux et la façon dont on a procédé était de procéder par étapes. La première étape, c'est qu'en France, les aides à la presse sont très fléchées autour de cette certification d'information de presse générale et puis qui était aussi un des grands enjeux des droits voisins, de faire en sorte que cette information si importante aujourd'hui pour faire vivre la démocratie ait une place toute particulière. Et on s'est mis d'accord avec l'information de la presse générale pour cet accord cadre qui fait qu'il y a presque 300 titres de presse, tous les titres quotidiens régionaux, nationaux qui sont dans ce groupe. La deuxième question, et c'est beaucoup plus compliqué, ce que vous évoquez sur la presse magazine, si on prend des associations comme celle-là, il y a 500 titres. Sur ces 500 titres, il y en a 250 qui ont des sites internet. Sur les 250 sites internet, il y en a 60 qui ont des publications de presse. Donc tout l'enjeu est de s'asseoir, de définir quel est le cadre, une fois qu'on a ce cadre, de définir quels sont les revenus associés à ces titres-là et d'avancer.
Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que dit Sébastien Missoff. Premier élément, il veut continuer à discuter, à s'asseoir, comme il le dit. Est-ce que vous êtes assis avec lui ? Est-ce que vous l'avez vu depuis cet entretien réalisé le 20 mai ?
En réalité, non. Il est sûr que les anciens comme moi se souviennent que pour la discussion de la paix au Vietnam, on a mis plus de la moitié du temps à discuter de la forme de la table avant d'arriver à la conclusion.
La référence, c'est la guerre du Vietnam, votre référence.
Un petit peu, parce qu'on a un problème de définition de la forme de la table, et après, je pense qu'on trouvera un accord.
Donc, vous n'avez pas discuté sur le fond avec lui. Vous percevez
on a un rendez-vous dans 15 jours.
Dans 15 jours. Comment vous percevez l'attitude de Google dans ce dossier ?
Écoutez, Google sait qu'il va devoir participer à l'entretien de ses fournisseurs privilégiés que sont les éditeurs de presse. Ils ont une attitude un peu de retardement, un peu inévitable. Et puis surtout, ils savent très bien que tout accord fait avec la France, qui est le pays leader dans cette discussion-là, la France a été la première à implémenter la directive européenne, va leur coûter dans le monde entier. Donc évidemment, ils sont très très prudents, ils explorent, ils découvrent et ils sont très attentifs parce que ça aura une répercussion mondiale pour eux.
Sur la presse magazine, Sébastien Missoff, le patron de Google France, dit qu'il faut définir un cadre de manière à définir les revenus associés aux différents titres. Que pensez-vous de cette méthode, de sa méthode ?
Il est un peu taquin parce que le cadre est défini par la loi. Il n'est pas défini par Google ou par une négociation privée. Mais on voit déjà bien le choc de culture entre une société latine un peu colbertiste et une société beaucoup plus libérale. Donc la loi définit clairement que ce sont les organes de presse ayant des sites et de la diffusion digitale et vidéo qui ont droit aux droits voisins. À partir de là, il faut se mettre d'accord ensuite sur une juste rémunération et sur des paramètres progressifs qui permettront à la presse de faire développer ses audiences, de développer le modèle d'affaires de Google et d'être rémunéré aussi. C'est le message de fond que nous voulons passer aujourd'hui, c'est que la presse est un outil formidable pour la diffusion digitale et Google doit s'en saisir, non pas de façon défensive, mais positive. Nous serons des bons partenaires pour Google. Et la presse magazine, avec la diversité de ses contenus, est un formidable atout. Parce que la presse quotidienne, c'est merveilleux. On est tous amoureux de la presse quotidienne. On en a besoin tous les jours. Mais en même temps, si vous n'avez plus Paris Match, vous n'avez plus Femme Actuelle, vous n'avez plus Rustica, vous n'avez plus Le Chasseur Français, vous n'avez plus Valeurs Actuelles ou Charlie Hebdo, il y a un problème aussi. Donc la presse magazine, elle fait en sorte que les kiosques en France ne ressemblent pas à l'Allemagne de l'Est des années 60, si vous voulez. Cette formidable richesse de la presse magazine, aujourd'hui, va devoir trouver un débouché digital et une rémunération digitale.
C'est la première fois que j'entends Valeurs Actuelles et Charlie Hebdo dans la même phrase.
C'est la fierté de mon syndicat.
Je vais parler de votre réponse à cette situation, celle de votre syndicat. Vous avez annoncé la semaine dernière la création d'un nouvel organisme, organisme de gestion collective en partenariat avec la SACEM. La SACEM qui est l'organisme chargé de récupérer les droits d'auteur, notamment de la musique. À quoi cela va-t-il servir ?
Écoutez, je faisais l'analogie entre la presse et la musique. Nous sommes une activité qui a 5 à 10 ans de retard par rapport à la musique. Et nous nous tournons très légitimement vers la SACEM, son président qui est un homme très très actif et très intelligent et toute son équipe ont déjà une grande habitude des négociations internationales de copyright. Ils représentent des catalogues internationaux très forts et ils nous vont nous apporter leurs compétences pour travailler avec Google et toutes les autres plateformes.
Le président de la SACEM, Jean-Noël Tron. Alors comment vous voulez constituer un front commun face à Google ?
Alors, il s'agit aussi de déborder
Pardon
Google.
Pardon ce vocabulaire militaire, mais vous avez commencé avec la guerre du Vietnam. Donc...
Oui, mais là maintenant on parle de paix, de ouais. paix après la guerre du Vietnam, justement. Donc c'est bien ça l'optique dans laquelle nous sommes. Non, il s'agit de déborder la seule question de Google, qui au demeurant va être sans doute aussi aidée par le contentieux qui est en cours devant l'autorité de la concurrence.
On
mais
va
au-delà
parler.
De ça, il faut parler des autres plateformes, de tous les... petits acteurs qui vivent, et c'est normal et c'est intéressant, d'une diffusion digitale de la presse, mais qui doivent rémunérer la presse. Donc la SACEM, elle a à la fois la capacité de négocier avec les très gros et en même temps d'être un interlocuteur valable et professionnel pour l'ensemble des piles plateformes.
Comment va fonctionner cet organisme que vous entendez créer avec la SACEM ?
Eh bien, ça sera un organisme qui devra, nous avons appelé l'ensemble de la presse à venir définir avec nous les statuts, qu'il devra accueillir l'ensemble des familles de presse sur des bases de juste répartition en fonction des poids économiques. Et il y aura des statuts qui ne seront pas dirigés par les syndicats professionnels, mais en direct par les différents éditeurs.
Ça existe déjà, des organismes de collecte. Le vôtre sera redondant. Comment ça va se passer ? Il y a par exemple le CFC, qui est le Centre français d'exploitation du droit de copie.
Oui, absolument. L'idée, c'est que la matière droit voisin est nouvelle, très spécifique. La matière droit voisin est très nouvelle, très spécifique. Et nous créons un OGC dédié à celui-là pour le mettre en place. Après... il sera toujours temps de réunifier les choses.
On va parler des organisations professionnelles des médias que vous appelez à rejoindre cette structure. Juste après une courte pause, nous sommes avec Alain Auger, c'est le président de le SEPM, le syndicat, pardon, c'est masculin, le syndicat des éditeurs de la presse magazine. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alain Auger, le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine, la SEPM. La SEPM qui a annoncé la semaine dernière la création d'un nouvel organisme chargé de gestion collective, en gros de récupérer des droits. On parle des droits voisins, en partenariat avec la SACEM, c'est assez rare pour signaler, et c'est ce qui est très intéressant dans cette association. Vous appelez toutes les organisations professionnelles des médias à rejoindre cette structure, c'est-à-dire qui peut vous rejoindre ?
Bien, l'ensemble des titulaires du droit voisin selon les termes de la loi. Donc les organes de presse, y compris les agences de presse, qui ont vocation à facturer et à être rémunérés de leurs droits voisins.
Et y compris les quotidiens qui ont déjà pourtant signé un accord ?
Y compris les quotidiens, parce que de toute façon, c'est leur liberté absolue et leur responsabilité d'avoir déjà signé des accords. Le gros avantage d'un organisme de gestion collective, c'est comme une chaîne bien connue, on y vient comme on est. Donc on peut apporter tout ou partie de ses droits. Et donc les gens qui auront déjà signé avec Google ou qui avec Microsoft ou qui avec Tartemolle dans une petite ville, c'est pas grave. On apporte à cet OGC ce que l'on a comme droit disponible. Et année après année, on fait varier potentiellement les portefeuilles. Aujourd'hui, dans la musique, il y a des grandes et des petites sociétés qui gèrent une partie de leurs droits. Et la SACEM gère, je crois, plus des deux tiers des droits, mais pas l'exclusivité des droits.
Juste un mot, l'abréviation OGC.
Organisme de gestion collective.
Vous avez lancé cet appel la semaine dernière. Quelles sont les réponses que vous avez eues ?
Ben écoutez, pour l'instant, on est dans des contacts informels, mais très, très intéressants. Moi, je ne suis pas un homme de publicité. Je préfère que l'on travaille tranquillement à élaborer des statuts qui tiennent la route, que l'on puisse, dès septembre, commencer à adresser les demandes que l'on doit adresser aux acteurs concernés. Et ensuite, j'allais dire, par un prompt renfort, nous serons nombreux au port. Donc voilà, démarrons, faisons la preuve et les choses avanceront.
Je ne veux pas vous demander de trahir des secrets de négociation, mais juste comme ça, parce que c'est la chose la plus spectaculaire, est-ce qu'il y a déjà des quotidiens nationaux ou régionaux qui vous ont contacté ?
Je me permets un joker.
Il y a un amendement qui a été déposé au Sénat, amendement qui demande que les négociations sur les droits voisins aient lieu d'un bloc avec toute la presse et non pas les quotidiens d'un côté, les magazines de l'autre. Que pensez-vous de cet amendement ?
Écoutez, nous remercions les sénateurs et les députés qui suivent ces questions-là. Ils sont très compétents et très dévoués. Aujourd'hui, nous préférons donner la chance encore à la négociation. Donc, nous avons demandé à ces parlementaires de garder cet amendement en réserve pour les cas où les choses iraient mal, mais nous avons confiance que nous arriverons à déboucher sur quelque chose.
Le SEPM que vous présidez est mécontent des discussions menées depuis plus d'un an, c'est un euphémisme, vous avez donc déposé une plainte devant l'autorité de la concurrence en fin d'année dernière, plainte parce que Google n'avait pas mené des négociations de bonne foi, je mets entre guillemets, comme le lui avait pourtant demandé l'autorité. L'autorité qui a examiné le dossier au début du mois de mai, elle doit bientôt rendre sa décision. Qu'attendez-vous de cette décision ?
Eh bien, écoutez, c'est une décision très très importante parce qu'encore une fois, l'autorité de la concurrence française a une responsabilité de poser une jurisprudence en réalité au niveau mondial. Donc il est clair que les trois juges sont des juges professionnels et qu'elles sont en train de peser les termes de leur décision très précisément. Il est clair que nous, le SEPM, nous nous rallierons à leur décision et nous sommes confiants sur le fait que leur décision fera avancer les choses.
Vous parlez des termes de la décision, des chiffres et des lettres. Le chiffre en coulisses, on parle d'une amende éventuelle d'1 milliard d'euros.
Je ne commenterai pas.
Vous avez entendu cet ordre de grandeur comme moi.
Oui, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'il faudra trouver un arsenal et peut-être aussi plus une question d'astreinte qui engage vraiment Google à accepter de tourner la page de la gratuité et de passer à un partenariat gagnant-gagnant.
Qu'est-ce qui coince ? Je ne sais pas comment poser cette question-là d'une autre manière, puisque je comprends très bien que vous ne vouliez pas trop dévoiler. Qu'est-ce qui coince dans les discussions que vous avez eues avec Google ? Est-ce que ce sont les critères de versement ? Est-ce que ce sont les sommes des montants versés jugées insuffisants ?
Je crains qu'à la fin des fins, on revienne à l'excellent billet « Fils, combien tu m'aimes ?» Je crains que ça soit vraiment une question d'argent.
Est-ce que vous demandez l'intervention du gouvernement dans ce dossier ?
Écoutez, pour le moment, le gouvernement a fait un travail formidable en posant les termes de la loi. L'autorité de la concurrence est à l'œuvre. À partir de là, nous allons pouvoir discuter vraiment et on fera le bilan. Mais laissons-nous encore du temps, laissons du temps au temps pour arriver à une négociation conclusive.
Mais je suis assez étonné par votre réponse, que vous voulez laisser du temps au temps, pour paraphraser le président Mitterrand, mais vous dénonciez la manière de faire de Google avec des manœuvres dilatoires.
Oui, précises, mais étant entendu aujourd'hui...
Qui consiste à gagner du temps, je dis pour les gens qui ne connaissent pas le mot dilatoire.
Absolument. Mais il est à peu près entendu aujourd'hui que le compteur a commencé à tourner à la promulgation de la loi en octobre 19. Et Google, le premier, sait maintenant qu'il n'y a plus de... Gagner du temps ne sert plus, parce que de toute façon, il y aura un rattrapage à faire.
Il n'y a pas que Google dans le paysage. Où en sont vos relations avec les autres GAFAM ?
Alors, très bon contact avec Microsoft. Et Microsoft nous a beaucoup demandé de venir avec une organisation collective, auquel ils sont culturellement habitués. Facebook, nous avons des discussions. Les quotidiens sont plus avancés que nous. Nous sommes à peu près dans les mêmes termes de négociation qu'avec Google. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a un espèce de silence des armes. Tout le monde attend l'arrêt de l'autorité de la concurrence.
On a commencé avec des négociations de paix. Nous finissons cet entretien avec le silence des armes. Merci beaucoup Alain Auger. Vous êtes le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine. Merci d'être venu en direct dans Culture Média. Dans un instant, on va parler de la nouvelle formule. On va rester dans la presse et la presse quotidienne cette fois. La nouvelle formule de 20 minutes, le journal le plus lu en France, oui. Nous serons avec Frédéric Daruty, c'est son président et à la fois directeur de la publication. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Frédéric Daruty.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes président et directeur de la publication du quotidien gratuit 20 minutes, le journal le plus lu en France, 3 millions de lecteurs par jour. Votre actualité, c'est une nouvelle formule de 20 minutes depuis le 9 juin. Pourquoi une nouvelle formule ? Pardon de cette question, mais il n'y en a pas d'autre pour démarrer. Parce qu'il faut sans cesse se renouveler. Ou est-ce qu'il y avait un impératif plus profond après la crise du Covid ?
Ouais, la crise du Covid a fait émerger la formation sur le numérique de manière assez massive et tous les titres d'information ont été particulièrement fréquenté. Il y a une confiance qui s'est créée sur ce sujet-là. L'info en continu, elle est devenue vraiment importante. Et ça veut dire qu'à côté de ça, notre journal, qui était aussi dans l'information très régulière, devait se positionner par rapport à ça. Et on a travaillé à produire un journal plus nouveau dans sa forme, hein, plus rythmé, plus coloré aussi, mais aussi nouveau dans son contenu, avec des contenus un petit peu plus longs, plus variés, et puis des rendez-vous thématiques.
On va en parler, on va pas tout déflorer. Je voulais juste commencer par ça. 20 minutes, c'est un journal distribué dans la rue, dans les transports en commun, à la sortie des métros pour qui connaît Paris. Si les gens ne sortent plus de chez eux pour travailler à cause du confinement, à commencer par vos messagers, il y a un gros problème.
Alors ça, très clairement, le problème, il a eu lieu au moment du premier confinement. Hein. Là, on s'est arrêté de paraître parce que ça n'avait pas de sens et on n'allait pas, en effet, distribuer quand il n'y a personne dans les rues. Par contre, contrairement à ce qu'on croit, il y a eu toujours beaucoup de monde. Alors, on a été très transparent avec le marché. Il y a eu une baisse de diffusion pendant la période des différentes différentes périodes de confinement. Mmh. Et progressivement, ça s'est réinstallé. Mais surtout, ce qu'on a travaillé, c'est de s'adapter, adapter notre distribution. Donc, c'est vrai que les gares SNCF, les sorties de métro, c'était toujours importante. Mais on a réfléchi. Par exemple, quand il y a eu la réouverture des écoles, on a positionné des colporteurs près des écoles.
Ah oui.
Donc, on travaille.
Pardonnez-moi, vous commencez à quelle classe ? C'est pour les élèves étudiants ou est-ce que c'est pour les parents qui viennent chercher leurs petits à la maternelle, par exemple ?
C'est clairement pour les parents. Je serais ravi que les plus jeunes aussi nous lisent. Mais
non, mais vous pourriez être dans les facs, par exemple.
Alors, ça, c'est aussi un autre sujet pour la rentrée 2021. Enfin, on y a réfléchi depuis l'année dernière, mais la fréquentation des facs, elle n'est pas encore massive aujourd'hui. Mais pour la rentrée, en effet, on va se renforcer autour des campus et des facs pour aller chercher ce cœur de cible jeune qui nous tient beaucoup à cœur. Mais donc, on s'adapte. Voyez, on a notre distribution. On a travaillé aussi de plus en plus avec les espaces de coworking. Ce nouveau mode de travail, ça fait qu'on repositionne les lieux de distribution.
Je voudrais qu'on donne les chiffres parce qu'ils sont quand même assez puissants, les chiffres de 20 minutes. 22 millions de lecteurs par mois, tout support, donc 83% sur le numérique, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, vous êtes le journal le plus lu en France.
Oui, tout à fait. Ça, c'est fondamental par rapport à notre modèle économique d'avoir une puissance sur ce sujet. Et puis, c'est un modèle... D'ailleurs, on s'est posé la question au moment du confinement, est-ce qu'on change notre modèle ? Notre modèle, ça reste la gratuité et l'accessibilité. Donc, on se doit d'aller au-devant de nos lecteurs et de distribuer massivement pour avoir une couverture la plus large possible.
Je donne un dernier chiffre, 16,5 millions de visiteurs uniques par mois sur le numérique. Donc, la nouvelle formule, dans votre communiqué de presse, vous mettez en avant le fait de s'extraire de l'hyper présent. J'ai beaucoup aimé, mais c'est quoi l'hyper présent ? C'est du présent plus présent que le présent ?
Ah, mais c'est aujourd'hui, on a vu cette période de confinement, elle a fait que les lecteurs, enfin les internautes, étaient hyper présents sur tous les sites d'information. Ouais. Et on l'a vu sur 20 minutes. Quand on est entre 3 et 4 millions de visites par jour, on est monté. Il y a eu un pic au moment de l'annonce des municipales et du confinement en mars à 19 millions sur une journée. Donc c'est impressionnant. Et ça s'est comme ça répercuté tous les jours pendant toute cette période. Donc ce côté très présent des utilisateurs et qui recherchent l'information et l'information la plus fraîche possible. Nous, notre propos sur le journal, c'est plutôt de proposer un temps de pause. C'est une synthèse, c'est un choix qu'on fait, puisque c'est l'utilisateur, quand il est sur le web, il choisit ses contenus. Là, c'est nous qui choisissons pour lui et donc on lui propose un temps de pause. Donc historiquement, par la marque 20 minutes, c'est 20 minutes de temps de pause. Là, on est aussi sur des sujets plus variés et pas de l'actualité du quotidien et très dans la réactivité.
L'hyperprésent, on est presque dans du Baudrillard. Et alors justement, puisque vous parlez de cette pause, le but annoncé, c'est de faire une pause dans ce flot ininterrompu de l'information, de prendre son temps. Je voudrais qu'on parle de l'accélération de l'époque. Je reviens à Baudrillard sans le vouloir. Quand 20 minutes a été lancé en 2002, c'était au contraire le journal de la rapidité. On disait, contrairement aux autres grands journaux, celui-ci se lit qu'en 20 minutes. C'était un temps court. Maintenant, 20 minutes, c'est un temps long.
Oui, complètement, c'est impressionnant. C'est quand on voit la vitesse à laquelle les utilisateurs consomment un contenu sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on est sur des temps beaucoup plus rapides. Donc là, en effet, c'est un temps un petit peu plus long. Après, on cherche quand même à alterner. Si vous regardez la nouvelle formule, ça n'est pas que du temps long ou du temps court. C'est justement beaucoup de rythme avec des infos courtes. Une rubrique comme la D-News, qui est très recherchée et qu'on a repositionnée aussi dans le journal, à la fin du journal. Et puis, en moment, des sujets sur lesquels on va passer un peu plus de temps, creuse un peu plus, avec les fameux trois rendez-vous thématiques de la semaine, le lundi la conso, le mercredi la planète et le vendredi culture divertissement.
20 minutes est un quotidien, est-ce qu'il est toujours un quotidien ? Vous ne sortez plus 6 jours sur 7 comme au début ?
On sort 3 jours dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi.
Et vous bouclez à quelle heure ? J'ai regardé le journal de ce matin, il y a par exemple les résultats du foot.
Exactement, alors il y a des bouclages tardifs, hier soir il a fallu finir assez tard.
À cause du foot ?
Merci à toutes les équipes qui travaillent, oui, à cause du foot. C'est souvent les résultats, l'information sportive qui fait qu'on boucle assez tard.
Comment est construit le journal désormais ?
C'est-à-dire ?
Le séquençage, l'ordre des...
Alors, il y a des éléments qui sont restés permanents. C'est-à-dire qu'on commence toujours par la locale. Je vous rappelle, on est présent dans 10 villes avec 10 éditions différentes en France, au-delà de Paris. Donc, ça fait 11 éditions.
Sur les 11 éditions, il y a combien de pages dédiées Il y a 2 pages dédiées à l'endroit où on distribue.
Exactement. Donc, sur les 10 grandes métropoles. L'actualité, la culture, le sport, la pause et les fameuses D-News.
Est-ce qu'il est également... Les D-News, c'est à la fin.
C'est à la fin, exactement.
J'aime bien regarder ça. Le journal est construit également à l'envers. Je donne juste ce chiffre pour les gens qui ne connaissent pas la presse écrite. La plupart des gens sont droitiers. 84%, ils tiennent le journal dans la main gauche et ils tournent les pages de la main droite. Donc c'est très important d'avoir une belle lecture en partant de la fin.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est, mais en fait, c'est, chacun a son 20 minutes dans cette... On a quand même une cible tellement large, hein, on diffuse à 800 000 exemplaires, donc chacun s'approprie la façon dont il lit 20 minutes.
Vous avez une cible large, je crois qu'au contraire, vous cibliez les jeunes adultes.
Alors, il faut non, je me suis mal exprimé. On a une couverture très large, et forcément, quand on diffuse aussi large que ça, on s'interdit pas d'avoir des lecteurs de tous les de toutes les générations. On a un cœur de cible qui sont les 18-30, parce que en effet c'est eux qui donnent, c'est eux qui guident, c'est eux qui sont nos lecteurs de demain. Donc c'est eux qui nous intéressent beaucoup et qui ont toujours été surreprésentés historiquement sur 20 minutes.
On n'a pas encore dit un mot de la nouvelle maquette. Ça tombe bien parce qu'il nous reste du temps. Culture Média continue. Nous sommes avec Frédéric Daruti. C'est le président et directeur de la rédaction de 20 minutes. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Frédéric Daruti, président et directeur de la publication et non de la rédaction de 20 minutes. Je rappelle, la nouvelle formule du quotidien gratuit a été lancée le 9 juin. Chaque fois qu'il y a une nouvelle formule, il y a une nouvelle maquette et c'est bien normal. Alors habituellement, je lis ça depuis des années et des années. On nous explique que cette nouvelle maquette sera plus claire, plus aérée, avec une plus large place donnée à la photographie. Vous, pas du tout. Vous annoncez une maquette plus dynamique et plus agitée. C'est quoi une maquette plus agitée ?
Alors ça, je me suis permis aussi de reprendre ce terme plus agité. C'est ma directrice de la rédaction et c'est son équipe qui ont travaillé sur cette maquette. Donc je les remercie parce que c'est vraiment un travail de groupe qui a été fait dans un temps record. Ce genre de travail, ça demande généralement beaucoup de mois de réflexion. Agité, c'est simplement qu'on est dans on change le rythme et alors on a mis des couleurs, hein, on fait émerger des chiffres et par rapport à la façon dont c'était formulé avant. Et puis surtout, on change de rythme. On passe d'articles courts à des articles plus longs. Et alors qu'historiquement, on était sur du court chez 20 minutes. On garde le côté information court, mais on donne aussi un petit peu plus de contenu sur certains sujets.
Ce que vous appelez long, c'est pas non plus des 14 pages, puisque c'est l'ensemble ça serait l'ensemble de votre journal ou presque. C'est un article long, c'est combien à 20 minutes ?
C'est une à deux pages.
Il y aura aussi des changements au niveau de la distribution. Vous allez avoir des colporteurs à vélo, ai-je lu, dans des nouvelles villes ?
Alors, il y a déjà des colporteurs à vélo. Hein. On a lancé ça au moment de la sortie du premier confinement sur Paris. Et en effet, on va l'étendre dans les grandes métropoles sur lesquelles on est déjà présent, à Lyon, probablement à Bordeaux. Ça nous permet de donner de la visibilité. Ce contact aussi, il est super important avec le lecteur. Et il y a un rendez-vous qui s'installe entre le lecteur et le colporteur. Et à vélo, il y a...
Et le distribue à la criée, comme dans les films des années 60, de Godard.
Non, exactement. Et je reçois des courriers, hein, de lecteurs qui me disent « Ah tiens, il n'était pas là ce jour-là, ou c'était pas le même. » Il y a un lien qui se crée et qui est assez rassurant pour notre distribution.
Le modèle économique de 20 minutes est très connu, vous l'avez dit, c'est la publicité, puisqu'avec la gratuité, il n'y a pas de vente au numéro. Je dis ça pour les gens qui prendraient cette émission en cours de route. À l'attention des annonceurs, vous parlez de, je cite, « une opportunité d'écran publicitaire inédit sans équivalent sur le marché. » Pas d'écran, d'écrin publicitaire inédit sans équivalent sur le marché, c'est-à-dire c'est quoi cet écrin ?
En fait, on est toujours historiquement évidemment sur l'information et sur un rythme qui est guidé par l'actualité, mais on crée aussi ces fameux rendez-vous autour des thématiques qu'on a positionnées lundi, mercredi, vendredi. Et c'est ça aussi qu'on veut sur des sujets qui sont fondamentaux pour nos lecteurs, la conso, la planète, la culture, qui font partie du quotidien où il y a beaucoup de choix et d'éclairages à apporter qu'on permet aussi à des annonceurs de venir se positionner par rapport à ce type de contenu.
Ah bah là, l'annonceur, il s'est bien positionné puisque la une du jour, c'est pas la victoire de l'équipe de France contre l'Allemagne, mais une publicité. Pourquoi ça vous fait sourire ?
Pas parce que si, c'est bien la victoire de la France contre l'Allemagne.
Non, quand on regarde le journal, en premier, il y a Flink, qui est un service, je ne savais pas ce que c'était, c'est un service pour se faire livrer ses courses en 10 minutes. Donc on a deux fois le temps de se faire livrer, le temps de lire 20 minutes. Est-ce que ce n'est pas préjudiciable d'être un journal d'information et de ne pas avoir sa une consacrée à l'information ? Évidemment, vous avez réfléchi à cette question.
Mais c'est aujourd'hui, le modèle de 20 minutes, il est accepté par les lecteurs. Et historiquement, il y a toujours eu ce contrat de lecture entre la publicité et le contenu. Donc, on veille en effet à bien préserver, à garder la limite, mais évidemment la publicité elle est importante et le lecteur le sait.
J'ai appris que vous aviez signé un un partenariat technologique avec une start-up, elle s'appelle MyTraffic. Vous êtes le premier éditeur français à procéder de la sorte. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Qu'est-ce qu'ils font pour vous?
Alors c'est ce dont je vous parlais au début de notre entretien. Il s'agit de pouvoir avoir dans des délais le plus rapide possible des mesures, des flux des consommateurs dans les rues, dans les transports et dans les différents
C'est-à-dire
sites.
C'est une sorte de Waze de la distribution. On peut savoir combien il y a de gens à tel endroit, sur telle terrasse, dans telle rue, devant tel campus.
Exactement. Ils travaillent sur les mobiles, hein, avec les opérateurs mobiles pour mesurer l'augmentation ou la baisse de flux. Et nous, ça nous permet d'adapter notre réseau de distribution.
Mais à l'adapter en temps réel dans les 20 minutes, ou si j'ose dire, ou l'adapter d'un jour sur l'autre?
On est dans un délai de quelques jours, quelques semaines, objectivement. On n'est pas dans un délai du jour au lendemain.
Sur le plan publicitaire, vous avez reçu le label Digital Ad Trust, qui atteste de votre engagement, là encore je cite, en faveur de pratiques publicitaires responsables. C'est quoi des pratiques publicitaires responsables par rapport à d'autres qui seraient irresponsables?
Ça veut dire sur un écran limiter le nombre d'affichages publicitaires, avoir un rythme de l'affichage de la publicité qui ne vienne pas entacher le contenu et qui soit efficace pour l'annonceur. Parce que si vous faites défiler et si vous avez trop d'emplacements qui se multiplient sur un espace, vous perdez l'efficacité de la pub elle aussi. Non seulement vous perdez le lecteur parce que ça devient lassant, mais en plus vous perdez la pub.
Un mot de social, en mars dernier vous avez fait l'objet d'une motion de défiance de la rédaction alors que vous deviez annoncer des mesures destinées à réaliser des économies. Où en êtes-vous sur ce terrain?
Ah, c'est le terrain. Malheureusement, on est sur une période qui est compliquée. Hein. Je pense que dans tout le monde des médias, et
je pose quasiment cette question tous les jours.
Voilà, tout le monde est un peu concerné et il y a eu beaucoup d'incertitudes. Il a fallu prendre des mesures difficiles. Ce qu'on a fait chez 20 Minutes, c'est qu'on a essayé de prendre des mesures qui n'atteignaient pas les éléments structurels de l'organisation. Il y a eu quelques mesures, il y a eu du chômage partiel, il y a eu quelques licenciements. On a essayé de le faire le plus limité possible. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on soit focusé sur la sortie de la crise, sur la croissance et sur la reprise de notre activité. Aujourd'hui, il y a pu y avoir des échanges avec les actionnaires qui ont rassuré les collaborateurs. Ce qui compte, c'est maintenant l'avenir.
Et alors, toujours en mars dernier, vous envisagiez de développer le Flex Office, en français le bureau flexible, avec une diminution de 40% des bureaux physiques. Et vous aviez même le projet de sous-louer une partie de vos locaux dans le quartier Montparnasse. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous allez le faire?
Il y a eu une consultation avec plusieurs options. Vous êtes bien informés.
Merci.
Il y a une consultation, parce que c'est interne, le projet finalement il va s'orienter plutôt vers un déménagement, et vers la porte de Champéret, à Levallois très exactement, où on va mettre en place en effet des bureaux partagés, pas exactement dans la proportion que vous évoquez, et on va proposer du télétravail aux collaborateurs de 20 minutes. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une entreprise, j'ai lu un chiffre récemment, je crois qu'il y a moins de 20% des entreprises qui ne vont pas prendre en compte justement les nouveaux modes de travail, et notamment le télétravail à la
sortie
de la crise.
Qui ne vont pas prendre en compte ou qui vont prendre
en
compte?
Qui ne vont pas, donc ça veut dire que 80%
vont prendre en
adapter,
compte.
Voilà, et c'est ce qu'on va faire aussi.
Dans 20 minutes, il y a un horoscope. Est-ce que vous avez regardé le vôtre ce matin?
Je crois que je l'avais regardé.
Moi, vous êtes bien né le 5 avril.
Ouais,
bélier, voilà, ouais. Vous êtes bélier. Bélier, vous acceptez de faire des concessions. Vous osez prendre quelques risques dans le domaine matériel. Bon, pour moi, vous êtes planté parce que moi, on parlait de désir d'enfant. Donc moi, je suis très heureux avec les deux miens. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Daruti, président, directeur de la publication de 20 minutes. Je rappelle la nouvelle formule du quotidien gratuit lundi, mercredi, vendredi depuis le 9 juin. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue. Pardonnez-moi, je vous laisse parler.
Merci Philippe.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Nous recevons Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc sur les premières fois adolescentes et Bertrand Chamerois pour un écran de veille spécial prono. Notre invité, c'est l'acteur Alex Lutz, Catherine de Catherine et Liliane. Il sera avec nous pour le film 5ème set qui est une petite merveille. Et puis dans les indispensables, un manga pour les fans de foot et un phénomène musical. Ce sont des groupes, des chanteurs français inconnus ici et qui cartonnent à l'étranger. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.